Avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme soi-disant qui fait la surveillance civile de nos institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous représente mes invités de ce matin. Monsieur Jean Stoll, que vous connaissez déjà, il a participé à plusieurs de nos émissions. J'ai également avec nous Madame Kouzam Moniac-Gendron, bibliothécaire gestionnaire de profession. Elle publie occasionnellement des articles dans les journaux. Nos deux invités sont venus ce matin nous parler d'un sujet d'une grande importance. La plupart de nos citoyens ne se rendent pas compte de la dangerosité de ce nouveau débat. L'euthanasie, le suicide assisté, encore appelé par les représentants de ce projet, la mort dans la dignité, ou plutôt choisir le moment de votre mort. Alors, c'est un peu classique comme titre de la part de notre gouvernement. Vous êtes gravement malade, chère auditrice, chère auditeur, et vous souhaitez mettre fin à votre vie. Une assistance médicale sera chargée à le faire à votre place. Voilà le projet de loi 52, mourir dans la dignité. Alors, il attend le feu vert de l'Assemblée nationale pour rentrer en exécution. Alors, certains sondages avaient annoncé 80%, je dis bien 80% de la population sont pour ce projet, un chiffre qui recule. Alors, pourquoi ce chiffre perdre des plumes? Est-ce l'évolution et la progression de la réflexion qui nous fait parfois changer d'idée? On se prononce moins vite? Est-ce qu'il y a une inquiétude qui ralentit nos pas? C'est ce que nous allons voir justement avec nos invités de ce matin. Ils sont tous contre ce projet. Pourquoi? Alors, selon une étude, je dis bien aussi, selon une étude du Centre de Recherche Urbanisation, Culture et Société, à moins de changements démographiques majeurs d'ici 2041, le Québec sera l'une des sociétés les plus vieilles en Occident. De 30 à 40% de la population seront âgés de 65 ans et plus. Le budget de l'État va s'effondrer en soins de santé. Vieillissement de la population veut dire coût élevé des soins de santé. Est-ce que l'euthanasie sera une solution à l'avenir? Alors mourir dans la dignité, encore un jeu de mots, autrement dit, l'État n'est pas en train d'ouvrir, on se demande tous, est-ce que l'État n'est pas en train d'ouvrir une grande porte au nom de la dignité humaine afin d'éviter le déclin d'une toute une société? Alors maintenant, est-ce que mes invités de ce matin arriveront-ils à nous convaincre, loin de la religion, que nul n'a le droit d'enlever la vie à autrui, de quelque manière que soit? Chers auditrices, chers auditeurs, demeurez à l'écoute. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Le projet de loi 52 concernant l'euthanasie est-il une menace réelle ou une bénédiction de l'État? Bonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Alors, j'en reviens aujourd'hui à notre sujet, l'euthanasie. Bonjour, Madame Kouzam.
Bonjour.
Madame Kouzam, vous êtes bibliothécaire de profession.
Exactement.
Alors, vous lisez trop?
J'essaye d'être le plus documenté possible.
Mais c'est très bien parce que vous avez plusieurs opinions.
Exactement.
Et vous avez quand même ce que j'ai appris. De votre part, comme quoi vous avez rédigé quelques articles, et même des articles concernant l'euthanasie.
Exactement, dans Le Soleil, et il y a eu un autre dans La Presse et Le Devoir.
Et pourquoi vous n'êtes pas pour, madame, l'euthanasie?
Bon, alors, tout d'abord, si vous permettez, je voudrais vous parler de la façon dont le dossier a été traité dès le début, et que je déplore, parce que je m'inquiète surtout pour les personnes vulnérables.
Comme depuis le début, depuis deux ans ou depuis...
En fait, depuis que le gouvernement a lancé mourir dans la dignité.
Deux ans et demi, oui.
Exact. Parce que je trouve que je m'inquiète pour les personnes vulnérables qui passent par des moments difficiles et qui vont opter pour le suicide assisté ou l'euthanasie, soit par méconnaissance des enjeux, parce qu'il y a une grande confusion qui existe entre l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie, et aussi parce qu'ils vont sentir une pression, que ce soit de la part de leur entourage ou du système de santé, à cause de leur maladie et du sentiment d'être des personnes inutiles et dérangeantes pour la société. Alors, par son approche médiatique, le gouvernement n'a malheureusement pas appelé les choses par leur vrai nom. Car la terminologie utilisée peut induire les citoyens en erreur.
La terminologie de quoi?
Par exemple, quand on dit Mourir dans la dignité.
Voilà, c'est ça le titre classique. Oui.
Exactement. Ça signifie, c'est accepter, entre autres, comme service médical, de se faire euthanasier et de hâter sa mort par le suicide assisté, en demandant au médecin de nous injecter un poison, un produit létal, comme on le fait dans certains pays, aux prisonniers. Et pour se déculpabiliser, en pensant rendre ce geste non criminel, le gouvernement décide de l'intégrer dans les soins de santé, en obligeant les médecins de le faire. Et même si cela va contre le serment d'Hippocrate qu'ils ont tous fait, soigner et guérir les malades et non les tuer.
Oui.
Ce message est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il sous-entend d'autres messages. D'abord, il signifie que les personnes qui acceptent de mourir d'une mort naturelle et d'aller jusqu'au bout de leurs conditions humaines ne meurent pas dignement. Il signifie que les personnes malades, handicapées, qui ne sont plus performantes, sont des personnes inutiles, car elles deviennent un poids pour leur entourage. Alors pour s'en débarrasser, pour que ça coûte moins cher, on va opter pour la méthode la plus rapide et la plus facile, celle de mettre fin à leur souffrance en les tuant, car il faut appeler les choses par leur nom.
Oui, je comprends, Madame Cousam, je comprends tout ça, mais imaginez-vous quelqu'un qui est dans une phase finale, qui, évidemment, c'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, il va mourir. C'est une question de temps. Alors, si lui demande d'abréger sa vie, ce ne sera pas une bonne chose.
En fait, c'est juste...
C'est juste pour ne pas prolonger la souffrance, vous comprenez?
D'accord. Oui. Alors, là, justement, vous parlez du point qui touche l'acharnement thérapeutique.
Oui.
Tout le monde a le droit de dire « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique », c'est-à-dire « je ne veux pas qu'on me mette des machines » pour prolonger ma vie, surtout quand les médecins nous disent « vous allez être un légume ». Ça, c'est d'une part. D'autre part, il existe de la sédation qui peut aider les gens à ne pas souffrir. Et quand la sédation est bien utilisée, si les médecins sont assez compétents, mais il faut les aider aussi à leur donner la formation et tout, à le faire, les gens ne vont pas souffrir. Au fond, souvent les gens disent « je veux mourir ». Pas parce qu'ils veulent vraiment mourir, mais parce qu'il faut, ils veulent qu'on les écoute, c'est un cri d'alarme. Et ils veulent être entendus et compris. Alors, je pense qu'il faut désamorcer plutôt que d'activer ce désir de mourir. Il faut prendre le temps de comprendre ce qui se cache derrière. Et ces gens ont souvent besoin d'être soulagés physiquement de leur douleur, mais aussi d'être entourés et accompagnés par leurs proches et les médecins pour passer à travers leur souffrance. Il faut dire que malheureusement, dans la société actuelle, on donne l'impression que la valeur d'une vie diminue à cause d'une incapacité physique ou mentale. Un être humain a une grande valeur, au-delà de sa beauté, de sa force physique, de ses maladies physiques.
Oui.
C'est le premier article des droits de l'homme. Les personnes qui sont affectées par une maladie physique peuvent encore être très utiles en matière de relations interpersonnelles. Comme leur présence, leur écoute, leur sourire, leur regard attentif et intéressé continuent à édifier, à transformer positivement leur entourage. Et une société est riche de tous ses membres, qu'ils soient malades, vieux, handicapés. On dit toujours la force provient de son plus faible maillon. Et l'accompagnement de la personne atteinte d'une maladie dégénérative ou en fin de vie, c'est une ouverture à l'autre et au courage. Et tout suicide, qu'il soit assisté ou non, c'est un drame personnel et un échec pour la société.
Oui, Madame Cousam, moi jusqu'à présent, on ne m'avait pas encore convaincu. Hein, on va être d'accord, ok? Parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que je vous dis, je le répète, quelqu'un qui est en phase finale, il souffre réellement, c'est lui-même qui demande d'abréger sa vie. Pour vous, vous dites que c'est un poids. Pour vous, vous dites que ce n'est pas son vrai choix. Il était poussé pour le dire. Est-ce que c'est ça ce que j'en comprends?
Non, pas vraiment. Il peut le vouloir lui-même, mais quand il le dit, c'est des fois parce qu'il veut que les gens l'écoutent et aillent plus loin. Parce qu'on dit tous à un moment donné de notre vie, on fait face à des problèmes et on dit « je veux mourir ». Est-ce qu'on va passer pour rendre service au voisin, à l'ami, je vais le mitrailler tout de suite et lui… Ouais. C'est ça, au contraire. Il faut être plus à l'écoute, il faut être plus compatissant. Et malheureusement, en fait, les gens qui prônent l'euthanasie se servent beaucoup du mot « compassion » pour dire que bon, il faut pas laisser les gens souffrir. Mais aucun dictionnaire, aucune encyclopédie ne mentionne que la compassion signifie tuer une personne ou supprimer sa douleur. On lit plutôt ceci, sentiment qui porte à plaindre, ressentir, partager les souffrances d'autrui, souffrir avec. Alors, il ne peut plus rien pour lui-même et pour le, quand on passe qu'il ne peut plus rien pour lui-même et pour autrui, c'est pas un temps perdu, là, mais c'est un temps d'amour et d'affection qu'on peut donner. Il s'agit pas d'accélérer la mort, mais de donner la chance aux personnes malades, aux agonisants d'être eux-mêmes et d'aller jusqu'au bout de leur vie. C'est ça la vraie compassion.
Vous parlez un petit peu de partager la souffrance.
Oui.
Est-ce que nous sommes obligés de partager la souffrance de quelqu'un, madame?
C'est un choix. C'est un choix. Mais si on veut être solidaire,
oui,
c'est tout à fait normal que s'il y a quelqu'un dans notre entourage, parce que ça va nous arriver à tous un jour, c'est d'être solidaire et d'être ouvert pour aider la personne qui vit déjà un problème physique, moral, de lui faire sentir qu'elle est importante, cette personne, et de l'accompagner jusqu'à la fin. Et c'est vrai, c'est pas facile aujourd'hui, on est dans une société individualiste, chacun pour soi, ne me dérangez pas. Et malheureusement, les familles sont souvent tiraillées par le travail, les enfants et tout ça. Et c'est très humain, à un moment donné, ils sont découragés et ils vont dire oui, j'en peux plus là, c'est mieux de donner la mort. Et il y a eu des cas dans les hôpitaux où on pensait que la personne était vraiment sourde. On disait ça, une femme a dit ça à un médecin à l'hôpital. Et la dame, parce qu'on dit toujours que l'ouïe, c'est quelque chose qu'on perd en dernier, elle a entendu et la larme tombait dans ses yeux, alors que tout le monde pensait qu'elle était dans le coma. Elle a entendu ce message que sa fille disait, docteur, j'en ai marre. Faites quelque chose, je ne peux plus m'occuper de ma mère.
Mais parce qu'elle voyait sa mère en train de souffrir, elle a voulu mettre fin à cette souffrance.
Ça peut être ça.
C'est une lecture
peut être,
aussi.
Mais ça peut, c'est une lecture, mais ça peut être aussi parce que nous, on est fatigués.
Oui.
On souffre aussi.
Oui.
Et c'est très souffrant pour les gens qui sont autour des personnes qui souffrent de se sentir impotents. On ne peut rien faire pour aider les personnes aimées qu'on souffre. Alors c'est le minimum qu'on puisse faire, c'est de les accompagner, être présent quand ils en souffrent.
Madame Cousin, une société, vous avez soulevé une société individuelle, le Québec, société individuelle.
Individualiste
pardon. Individualiste, justement. Comment vous expliquez? Est-ce que c'est ça qui explique qu'il y a 80% de la population qui sont pour l'euthanasie?
Bon, alors là, il faudrait que je vous dise que j'ai fait des recherches par des formations professionnelles. Et les chiffres qui sont lancés, c'est pas des vrais chiffres. Je vais vous dire pourquoi. Alors, d'abord, dans ce dossier, le gouvernement s'est laissé influencer par les revendications d'une petite minorité. Il a opté pour soi-disant une démarche démocratique.
Oui.
Il a investi beaucoup d'argent pour prendre l'avis des citoyens en mettant sur pied une commission. Mais les faits démontrent qu'il n'a pas vraiment tenu compte des opinions des gens dans les audiences publiques. Alors, il y a un organisme qui existe, entre autres, qui s'appelle Vivre dans la dignité. Il a mené une analyse indépendante, exhaustive, des mémoires soumises à la commission, et les chiffres sont clairs. Les mémoires et présentations orales révèlent que 99% sont en faveur du développement des soins palliatifs et exigent de les rendre accessibles sur tout le territoire du Québec et considèrent que les soins palliatifs constituent le choix par excellence pour une fin de vie digne. Et 60% sont opposés à l'euthanasie et 35% des personnes qui ont participé aux auditions étaient favorables à l'euthanasie.
Oui.
Et 2% seulement pour le suicide assisté. Ces chiffres contredisent les résultats qu'on dit là, en consultation en ligne, qui ont été dénoncés souvent. Mais quand une journaliste a posé la question aux membres de la commission, pourquoi vous n'avez pas mentionné les vrais chiffres?
C'est ça qui est. Ça veut dire que c'est les 80% peut-être derrière ça, ils sont de la fumée noire, c'est ça?
Exact. Alors, ils lui ont répondu, les personnes qui sont contre l'euthanasie émanent du même groupe. Alors, on se questionne. Pourquoi ce n'est pas le même raisonnement pour les gens qui sont favorables à l'euthanasie? Cela nous pousse à croire qu'il y a un parti pris ou une volonté politique réelle en faveur de l'euthanasie. D'autre part, c'est faux de penser que tous les membres du barreau, de la Chambre des notaires et d'autres organismes sont favorables à l'euthanasie comme on l'a annoncé.
Exact.
Et on l'a crié sur tous les toits. Il s'est avéré que les personnes qui sont à la tête de ces organismes n'ont pas consulté leurs membres. Et plusieurs articles dans les journaux le démontrent. La Chambre des notaires, le barreau, en tout cas, ils n'ont pas, et certains avocats l'ont dénoncé dans les journaux.
Mais madame, vous êtes d'accord avec moi aussi comme quoi cette commission ou bien le gouvernement, il a quand même réussi à influencer la population pour aller pour le, ce,
bien sûr,
ce projet-là.
Elle a réussi, c'était un peu son objectif, je devine. Oui. Parce que par le choix des termes, c'est quand c'est tellement trompeur, on peut induire en erreur. Même tous les gens qui sont contre l'euthanasie, ils vont dire ben oui. Mais tout le monde a droit à l'acharnement thérapeutique. Tout le monde a droit de ne pas souffrir et demander. Mais là où le problème se pose, c'est que les gens sont traités pour la douleur quand ils arrivent, ils arrivent en fin de vie aux soins palliatifs. Si le gouvernement investit plus d'argent pour qu'il y ait plus de médecins qui sont formés pour traiter la douleur, peut-être qu'ils vont pouvoir aider les personnes qui souffrent chez eux et qui ne sont pas rendus en phase terminale, et qui vont vivre, parce que les gens veulent vivre. Au fond, ce n'est pas de mourir qu'ils veulent, ils ont peur de la souffrance.
Mais ce n'est pas... De toute façon, ce que nous avons vu, moi, à plusieurs reprises, on avait vu des patients, des gens qui sont malades, qui suppliaient le gouvernement de les aider dans ce processus
Alors, comprenez. Justement.
Et on a vu aussi la souffrance, même des gens qui supplient, je dis bien, ils supplient, on veut, on a le droit.
Mais pour eux, ces gens-là?
On parle des patients qui veulent passer à l'acte,
oui,
mais qu'ils n'ont pas les possibilités.
Oui. Sont ces gens-là, il faut se questionner quelles sont leurs motivations, quel est leur état d'esprit, etc. Si je pense comme être humain individualiste, égoïste carrément, là, je vais réclamer mon droit de décider de tout, dans ma vie, sans aucun égard aux autres, à la société, etc. Mais M. Zitouni, quand vous avez, dans votre introduction, parlé de l'euthanasie, moi, j'entendais l'euthanasie.
L'euthanasie, oui.
L'euthanasie.
Oui. C'est pas
c'est phonétiquement très proche, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, c'est pour introduire un peu pourquoi... En 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était suite aux horreurs de l'euthanasie, n'est-ce pas?
Tout à fait, oui.
Et l'euthanasie faisait partie d'une de ces politiques. On oublie, on a une mémoire courte, malgré que je me souvienne, est écrit sur nos plaques d'immatriculation des voitures, mais on ne se souvient pas vraiment parce qu'on n'a pas vécu comme il faut.
C'est l'histoire,
comme les Européens l'ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on écrit dans le premier paragraphe, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux est inaliénable, et je répète le mot inaliénable parce que c'est la clé de cette énigme, constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Le droit inaliénable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un droit fondamental dont on ne peut pas être privé ni temporairement, ni définitivement, ni de sa propre volonté, ni contre son gré. Ce qui est très important de souligner, parce que dès qu'on ouvre la porte à l'État de s'occuper de notre fin de vie d'une manière drastique, il va en profiter, et ça sera très difficile de refermer la porte, encore une fois, comme ça a coûté les dizaines de millions de gens la Deuxième Guerre mondiale.
Oui. Mais vous allez donner des exemples un petit peu, me semble un peu extrême un petit peu. Revenons juste un petit peu, vous êtes aussi contre ce projet de loi, et vous êtes encore plus, parce que j'ai discuté avec vous à plusieurs reprises, et je vois comment vous êtes, vous foncez vraiment, vous maintenez comme quoi le gouvernement fait fausse route. Alors, imaginez-vous quelqu'un devant vous qui est en train de souffrir. Moi, je dis bien souffrir. Et c'est lui-même qui suppliait, vous demande de mettre fin à cette vie-là, qui finalement, d'une manière ou d'une autre, ça va.
Voilà l'exemple d'une manipulation. De la population.
Vous appelez ça une manipulation?
Totalement, absolument. Quand une personne est souffrante, au Moyen-Âge, il était normal qu'on était souffrant et les médecins ne pouvaient pas grand-chose pour nous soulager.
Phase finale.
Dans n'importe quelle phase. Mais on vit au 21e siècle, début de 21e siècle, la
il y a
technologie
les moyens pour
médicale
alléger,
a tellement progressé. Et on veut nous faire croire qu'il n'y a pas de moyen d'arrêter la souffrance. Non, ça, j'y crois pas.
Okay.
Ce sont les médecins qui se prononcent là-dessus qu'on n'a pas à souffrir. Ce sont les moyens que le gouvernement qui s'est dit de se charger de nous soigner, qui n'ont pas ces moyens.
Okay? Mais j'avais juste pour savoir... Est-ce que vous
alors
voyez pas...
c'est pourquoi ouais. Je crois que le gouvernement a besoin d'ouvrir une porte, et comme Madame Cousin a déjà souligné, ouais. Ça va inévitablement aboutir pour contrôler les dépenses du ministère de la Santé.
Ils vont sacrifier la population.
Absolument. Alors, est-ce que vous voulez vraiment vivre dans une société qui ne respecte pas votre vie, qui va vous manipuler et vous amener à demander votre mort parce que vous vous sentez plus comme l'être humain?
Ouais, et pourtant,
l'humanité a toujours eu ce choix de se développer, soit en se humanisant ou en se déshumanisant.
Ouais, ouais.
Alors, en 1948, les États partis de l'Organisation des Nations Unies ont décidé qu'ils vont prendre la direction d'humaniser l'humanité, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et quelques décennies plus tard, on se retrouve avec des politiques qui vont à l'encontre de ça.
Oui.
Et c'est ça ce qui est à dénoncer. Le choix de se suicider ne peut pas relever d'un droit, c'est une liberté, parce qu'on a des libertés fondamentales, et personne ne peut me contrôler qu'est-ce que je fais de ma vie, dans ma vie privée. Alors j'ai maintes occasions de porter atteinte à ma vie. Mais ça, si, dès qu'on le constitue comme le droit, là, l'État va inexorablement abuser de ce droit pour se débarrasser de ces citoyens inutiles qui sont le fardeau pour son budget.
Oui. Madame Cousin, juste pour vous dire, avant d'intervenir, est-ce que cet exercice-là d'assister les gens dans la mort, qui n'existe pas présentement, mais en cachette, là, il y a des médecins qui...
Non. Non, ils n'ont pas le droit de le faire, d'ailleurs.
Mais ça ne se fait pas dans privé, c'est des gens qui souffrent et tout.
Je ne pense pas qu'il y a eu des cas qui ont été mentionnés là-dessus.
Ah, c'est sûr que ça ne se mentionne pas, c'est un crime, mais est-ce que ça ne se fait pas en cachette?
Je ne saurais pas vous dire, en tout cas moi personnellement, dans le milieu que je connais, ce n'est pas le cas. Mais si vous permettez, j'aimerais vous répondre sur ce droit.
Oui, oui.
Effectivement, chacun dispose de sa propre vie et de son propre corps. Mais seulement dans le cas de l'euthanasie ou le suicide assisté, on demande à un proche, à un médecin, à un pharmacien, un parent, ami, de nous assister dans cette démarche, de poser le geste à notre place. Ça veut dire qu'on implique une tierce personne, on lui fait porter le fardeau de l'acte et on ne respecte donc pas sa liberté, puisqu'on veut l'impliquer au nom de la compassion.
Mais Madame Cousin, parce qu'on n'a pas la force de le faire, on n'a pas le courage peut-être de le faire, mais on souhaite quelqu'un plus courageux que nous, que la capacité.
Il y avait un cas à Québec, un vieil oncle a persécuté son neveu, jeune neveu.
Et demander
pendant des mois et des mois. Il y avait le jeune homme a subi un procès suite à ce suicide assisté par le jeune homme. Mais le jeune homme a subi une vraie persécution. Il était vraiment au bord de dépression et ce comportement.
Tu veux dire qu'il a regretté il a regretté
de son oncle.
Ouais, ouais.
Ce comportement de son oncle, on ne peut l'appeler que pervers. C'est une vraie perversion de s'acharner sur quelqu'un. Tu dois me tuer. Tu dois m'aider à me tuer.
Tu vas m'aider. Il ne faut pas me tuer là. Tu vas m'aider à mourir dans la dignité.
Alors, il faut appeler des choses telles qu'elles sont.
Dans la
par
dignité.
Leur vrai nom.
C'est ça, exactement. Mais même si l'euthanasie respecte l'autonomie de certains citoyens, elle met en danger la vie de plusieurs autres. Notamment celles des personnes handicapées, des victimes de dépression ou de maladies graves. Alors, une loi de ce genre, la loi 52, elle constitue une recette parfaite pour la maltraitance des plus vulnérables, car elle ne pourrait pas les protéger contre les pressions des membres de leur famille ou d'autres intervenants.
Je ne comprends pas. Maltraitance, pourquoi vous mettez maltraitance ici?
Bon, écoutez, il y a différents cas possibles.
Oui.
Il y a les personnes qui sont très attachées à leurs parents et tout. Il y a d'autres qui veulent avoir hériter.
Oui.
Il y a de tout dans la société. Les personnes qui veulent hériter, ils peuvent pousser ou faire pression à la personne pour qu'elle...
Même soudoyer le médecin.
Exactement, c'est très connu.
C'est des cas un peu, parce que là vous parlez d'une société individualiste justement. Là.
Mais individualiste, mais aussi égocentrique, dans le sens que chacun, pas tout, c'est pas le cas de tout le monde,
voilà,
pas généralisé.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de gens formidables québécois qui font ça, je parle québécois et micro, et tout ça. Mais il y a des cas où on pousse la personne carrément, on lui montre qu'elle est de trop et dérangeante parce qu'on voit venir en tout cas un leg intéressant et on est tanné. Il y a des cas comme ça. Alors comment protéger ces gens? Une fois que cette loi est ouverte, c'est fini et la personne, comme vous dites justement,
oui,
n'est plus capable de parler ou de se défendre. Qui va parler à côté d'elle? C'est la personne proche.
C'est le plus proche, oui.
Exactement. Oui. Puis là, on dit que les gens qui veulent se faire euthanasier, ils vont aller voir un notaire ou un avocat. Imaginez les coûts. Déjà, les gens ont de la misère à vivre. Il faut qu'ils aillent payer quelqu'un pour qu'ils signent officiellement un papier.
Oui.
Ça, c'est un point. L'autre point, on demande à chaque médecin, j'imagine, légalement, et il faudra que chaque médecin qui a utilisé l'euthanasie justifie le pourquoi. Alors déjà, on a peu de médecins. Déjà, ils coupent dans la santé. Et là, il va falloir que le peu de médecins qui vont s'occuper des malades vont devoir remplir de la paperasse de fonctionnaires pour défendre et aller en cour. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'aller vers cette tangente-là? Enfin, je vous laisse la parole.
Oui, je reviens moi, monsieur Jean-Stol. Je veux savoir à quelqu'un, à moi personnellement, si je veux, est-ce que je n'ai pas le droit de choisir ma propre mort?
En tant qu'égoïste, vous avez parfaitement raison.
Non, parce que vous défendez, vous enlevez ça, le droit de choisir ma propre mort.
Non, absolument pas.
C'est les arguments que vous avancez.
C'est de quoi il faut d'abord s'entendre, de quoi on parle quand on dit le droit. Quand on parle de droit,
oui,
c'est l'État qui gère qu'est-ce que le droit, ok?
Ça, c'est
premièrement,
juste.
Okay?
Ouais, ça, c'est juste, oui.
Officiellement. Alors, si vous réclamez le droit de me tuer, alors vous ouvrez la porte à l'État de porter atteinte à notre vie,
oui,
arbitrairement. Plutôt, il faut parler de votre liberté.
Mmh. Okay? Ah, c'est pas un droit, c'est une liberté pour vous.
Mais on ne peut pas parler de droit.
Oui.
Parce que dès qu'on parle de droit, on ouvre la porte à l'État de porter atteinte à notre vie arbitrairement. D'ailleurs, c'est plutôt vraiment manipuler la population au Québec c'est intentionnel, d'après moi, très intentionnel, parce que l'euthanasie n'existe qu'aux Pays-Bas et en Belgique, qui a été adopté en 2002,
c'est ma question,
et dans trois États des États-Unis.
Ouais.
Alors, la majorité absolue des États,
ouais,
dans le monde rejette complètement cette option, heureusement. Sinon, on serait vraiment mal pris. Il y a aussi un autre aspect, c'est que la commission de Mme Yvonne nous a jamais dit que la discussion va à l'encontre des dispositions du code criminel qui est de compétence fédérale, ne relève aucunement de l'Assemblée nationale du Québec, de sa compétence, et qui interdit explicitement, ce sont des articles 222 qui interdit l'euthanasie, commet un homicide quiconque directement ou indirectement par quelque moyen cause la mort d'un être humain, et l'article 241 qui stipule qu'il est coupable d'un acte criminel quiconque conseille à une personne de se donner la vie, la mort, pas la vie évidemment, de se donner la mort ou aide ou encourage quelqu'un à se donner la mort. Alors, le code criminel protège bien, dans une conformité totale avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, notre vie en tant que citoyen du Canada.
Oui.
Et c'est notre gouvernement du Québec qui portait atteinte à ça.
Mais Madame Cousin, mais il y a des pays qui ont adopté un tel projet. Hein. Vous voyez, Monsieur Johnston vient de citer la Belgique, aux États-Unis, trois États et tout. Et mais à votre avis, qu'est-ce qui se passe avec ça?
Ok, alors effectivement, il y a eu une étude attentive de la situation dans ces pays et ces États qui indique plutôt que le risque de dérive est bien réel, parce qu'il n'y a pas de mesure de protection à toute épreuve. Les lois qui réglementent l'euthanasie et le suicide assisté sont dans une large mesure inapplicables et incapables d'assurer la protection des personnes vulnérables parce qu'elles s'appuient sur la déclaration volontaire des médecins. Alors, la décriminalisation de l'euthanasie, elle donne aux médecins et aux responsables des politiques de santé la possibilité et les moyens d'exploiter les patients vulnérables.
De décider, vous voulez dire.
C'est ça.
Ouais. Pourquoi exploiter? Décider.
C'est ça. Exact. En Oregon, le nombre de suicides assistés a augmenté. Il augmente régulièrement, alors que diminue le nombre de patients dirigés en psychiatrie après avoir demandé le suicide assisté. Alors, les patients qui pourraient retrouver le goût de vivre ne reçoivent pas les soins auxquels ils ont droit, parce qu'ils considèrent le suicide médicalement assisté comme une forme de soins palliatifs. Le régime d'assurance maladie de l'Oregon, il rembourse dorénavant le suicide assisté plutôt qu'une chimiothérapie dispendieuse dans les cas de cancer avancé, vous vous rendez compte. Alors, en 2005, 550 citoyens hollandais ont été tués sans leur consentement.
Et on y allait.
Oui. Et ça, je ne parle pas à travers mon chapeau, j'ai une liste de sources d'informations. Les pays qui ont légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté pour les malades en phase terminale, aptes à décider ou ont étendu ces programmes aux membres vulnérables de la société. Par exemple, aux Pays-Bas, le gouvernement a adopté le protocole de Groningen qui permet aux parents de demander l'euthanasie pour leur nouveau-né gravement handicapé. Une étude hollandaise a établi que 23% des patients atteints de cancer en phase terminale souffraient de dépression et qu'ils étaient quatre fois plus susceptibles de demander l'euthanasie. Et ces résultats ont étonné les chercheurs qui supposaient que les personnes qui demandaient l'euthanasie prenaient leur décision en toute sérénité. Alors, une autre étude a montré qu'entre 1990 et 2000, le groupe suisse d'euthanasie, je vais mal le dire, mais je vais le dire quand même, Exit Dutch Schweiz a assisté 748 suicides. 21,1% des personnes en cause ne souffraient d'aucune maladie mortelle. Et en Belgique, le lobby pro-euthanasie réclame maintenant l'euthanasie pour les mineurs et les citoyens atteints de démence. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en Belgique et qui sont malades au début d'une maladie, qui ont décidé d'émigrer en Allemagne. Parce que là, ils ont peur.
Oui.
Ils font plus confiance au système médical qui peut mettre fin à leur vie. On ne sait pas.
Et se sauver carrément.
Exactement.
Oui.
Alors, ça vous donne une idée un peu comment ça se passe dans les pays qui ont appliqué ça.
Oui. Monsieur Johnston, vous ne pensez pas que cette loi-là, elle va passer quand même? Majoritairement, elle est appuyée dans l'Assemblée nationale.
Vous savez, hein, c'est quoi notre démocratie à nous, dans les pays occidentaux. La vraie démocratie serait si la population pourrait se prononcer par le vote direct, c'est-à-dire par plébiscite décisif. Malheureusement, au Canada, nous n'avons le pouvoir direct le référendum n'a jamais que le pouvoir consultatif, jamais décisif. Alors, ce sont nos prétendus représentants élus prétendument démocratiquement, mais on sait comment ça marche. C'est l'argent qui mène la campagne et qui monopolise nos masses médias pour nous présenter. Et on le voit depuis des décennies, c'est soit PQ ou PLQ, jamais une autre option. Alors, ce sont nos représentants qui vont décider pour nous. Alors, voilà. Mais malgré leur acharnement pour faire passer cette loi, il y a un obstacle infranchissable, c'est la loi fédérale. Le code criminel qui interdit ce comportement, et l'État québécois ne pourra jamais passer à travers cette épreuve tant que le code criminel ne sera changé dans ses propos. Sinon, les médecins au Québec seront poursuivables criminellement.
Oui, mais quand même, Madame Cosam, je ne sais pas si vous avez réussi à, je dirais pas convaincre, mais vous avez réussi à changer d'idée aux gens qui vous écoutent ce matin. Parce que il faut le dire, hein, c'est un débat un petit peu très, très complexe et plus très sensible aussi, hein, parce que nous sommes vraiment entre la frontière de la souffrance et de soulager la souffrance, hein. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça, on a plus, c'est le sentiment que j'ai, on a plus de la difficulté. Même moi, ce que j'étais un petit peu pour, hein, je dis sincèrement, j'étais pour, mais j'avais discuté à plusieurs reprises avec d'autres personnes et également avec monsieur Jean Stoll et tout. Puis je commence maintenant à prendre un peu plus de recul, mais pour réfléchir, hein, vraiment à ce qu'on a ce droit-là, ce que ce n'est pas un droit, cette liberté-là. Pour vous, est-ce qu'il y aura vraiment, pensez-vous qu'il y a des solutions, ou bien vraiment il n'y aura plus de solutions
Bien sûr.
Est-ce que des gens comme vous arrivent à convaincre, à sensibiliser la population à cette problématique-là, et que les gens peut-être prennent un recul, comme je dis, et peuvent réfléchir un petit peu autrement? Est-ce qu'il y a une possibilité?
Bien sûr qu'il y a une possibilité. On dit que c'est juste les fous qui ne changent pas d'avis.
Oui.
Je pense que chacun de nous se doit, dans son entourage, être à l'écoute des besoins des gens qui souffrent, mais aussi, il y a des solutions pour aider les mourants. Il y a des solutions pour que les gens ne paniquent pas. Je veux mourir avant d'arriver à cette phase. Comme je disais tout à l'heure, il faut savoir désamorcer plutôt que d'activer le désir de mourir. Il faut prendre le temps de comprendre ce qui se passe derrière. Des fois, en écoutant les mots, les attitudes, les gestes, les silences et les sanglots du mourant, on réalise qu'ils veulent être entendus, écoutés. J'ai eu l'occasion d'aller à la commission.
Assisté à la commission?
Bien sûr, j'ai présenté un mémoire, où je faisais l'éloge des soins palliatifs, parce que j'ai vu comment mon père est mort et comment ma mère est morte. Et
vous
c'était
avez vécu
deux cas
le...
tout à fait différents.
Différent, oui. D'un cas à un cas.
Mon père, j'ai eu cette impression qu'ils lui ont donné une dose de morphine plus forte, parce que, bon, ils avaient besoin du lit, puis bon.
C'est comme ça que c'est arrivé ici?
Ben en fait,
c'est votre impression ou
c'est l'impression que j'ai eue, mais eux, ils ont tous les documents, les médecins, pour dire que de toute façon, mon père allait mourir parce qu'il faisait de la dialyse, il a une bactérie qui allait dans tout le corps. Mais selon moi, on aurait pu quand même prolonger sa vie.
Combien avait... une journée, deux jours, madame, prolongée quand vous parlez?
Qu'importe.
Oui.
Il avait la joie de vivre.
Ah ouais.
Le matin même. Il était en forme, ma famille était à ses côtés. Et le soir, j'arrive, j'étais en voyage dans un autre pays à ses côtés, il était dans le coma.
Il a chuté.
C'est ça. Alors, c'est ça. Les médecins font de leur mieux, mais des fois, il faut savoir attendre. Par contre, ma mère, on savait qu'elle allait mourir. On lui a donné quand même une chambre à l'hôpital pendant une semaine, le temps que sa famille proche se prépare à sa mort.
Très bien.
Et c'est seulement quand on a eu de l'aide dans notre cas spirituel et tout ça, qu'on a su faire face à ça. Et là, ma mère est partie. Mais elle a résisté malgré toutes les souffrances qu'elle avait. Elle était avec l'oxygène pendant 5 ans. Elle a eu 2 cancers, plein de choses. Mais
elle n'a jamais réclamé
mourir. Jamais. Elle a même refusé qu'on lui donne des doses de souffrance, parce que pour elle, la souffrance fait partie de la vie. Et elle voulait partager selon sa foi et sa souffrance avec quelqu'un, je vais le dire, c'est la vérité, avec le Seigneur qui souffre. Et elle a eu cette grâce de pouvoir supporter. Alors nous, on surveillait pour qu'il n'y ait pas l'euthanasie.
Oui, mais justement.
On ne voulait pas qu'il y ait d'euthanasie, mais ils ont fait les choses correctement. Ils lui ont donné des sédatifs, parce que pour qu'elle n'en souffre pas, mais à une dose très correcte.
Oui, mais ça fait Madame Goussam, parce que juste pour dire que le Seigneur qui souffre et tout, les gens, ils sont un petit peu allergiques à cette décision-là.
Vous
comprenez, là
je
vais pas souffrir à cause
de... C'est parti d'une liberté fondamentale.
Non. Oui, je suis d'accord. Oui, tout à fait.
Vous avez... un peu ironiquement interrompu, Madame Cousin, combien, un jour, deux jours, prolonger la vie?
Oui, mais c'est ça, c'est réellement. Parce que les médecins disent,
on est tous condamnés à mourir.
Je suis d'accord, oui.
On va mourir un jour, tout le monde. Il n'y a personne qui va vivre éternellement, évidemment. Alors, est-ce que c'est ça ce qui va décriminaliser l'assassinat, le meurtre?
L'assassinat, oui, c'est un gros mot, ça, monsieur.
Mais l'assassinat désigne enlever la vie de quelqu'un d'autre. Oui. Alors, peu importe si c'est dans une salle stérile de l'hôpital que le médecin injecte un poison dans votre vein, ou si c'est quelqu'un qui vous frappe avec une barre de fer au coin de rue, c'est toujours votre vie est interrompue, est abrégée, est finie. Oui. Votre vie est terminée. Alors, cet acte met fin à une vie délibérément, à un moment précis, tandis que la mort naturelle, on ne sait pas quand ça survient. Et c'est ça ce qui nous préserve des dépressions, etc., probablement. Alors, l'humanité a toujours eu cette liberté de choisir soit une bonne voie de protéger ses plus vulnérables membres de société, ou prend une voie qui le déshumanise complètement. La voix de la loi de plus fort, de plus rusé, de plus habile, de mieux organisé aux dépens des autres, de se débarrasser des membres de la famille humaine qui sont le fardeau. C'est de l'eugénisme, monsieur. Oui. L'eugénisme, l'euthanasie, on était condamné dans les procès de Nuremberg. On l'oublie souvent.
Oui, monsieur Jansol, vous demandez vraiment que les gens ont cette possibilité de vivre jusqu'à la dernière seconde de leur vie. Ça.
Absolument. Il n'y a pas d'autre possibilité pour l'humaniser l'humanité. Mm-hmm. Pour que notre société prenne la bonne direction, il faut vraiment suivre la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mm-hmm. Il faudrait, à mon avis, adopter une éthique universelle fondée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour que tout le monde puisse adopter ces principes dans leur intégralité. La vie est une valeur inaliénable, est une valeur suprême dont chaque être humain dispose. Oui. Évidemment, je peux vous manipuler. Si j'étais un psychopathe, je pourrais vous amener à vous suicider. On le connaît, on connaît ces cas-là. Mm-hmm. Alors, vous dévalorisez d'autres êtres humains. On le connaît tous, des cas comme ça.
Mais monsieur Jean Stoll, madame Gouzam, pour vous les deux là, si cette porte-là, vous avez cette inquiétude là que cette porte-là s'ouvre de l'État, si l'État ouvre cette porte-là, et peut-être qu'on aura des difficultés à la fermer à un moment donné. C'est ça l'inquiétude. Hein,
absolument. Et ce sont les personnes qui souffrent déjà, qui sont vulnérables, qui vont égoutter. Les personnes qui choisissent de mourir par liberté et qui vont, par exemple, en Suisse, payer...
Oui, excusez-moi, madame, je vous écoute. Vas-y, très bien.
OK. Ceux qui y a des personnes qui se permettent d'aller payer de l'argent pour aller en Suisse et se faire euthanasier, c'est leur droit. Mais c'est juste que dans ce cas-là, on ne peut pas parler de notre droit seul, dans le sens que chaque personne, comme on dit, n'est pas une. Il y a des conséquences sur les autres, puis on veut impliquer d'autres personnes.
Madame Cousam, dernier mot. Moi, je ne suis pas tout à fait encore convaincu, loin d'être convaincu. Qu'est-ce que vous allez dire à ces gens que vous écoutent qui ne sont pas encore convaincus dans le même statut que moi?
En fait...
En quelques mots, madame.
Ce que je peux dire, c'est que s'il vous arrive d'être malade, de vous sentir inutile et tout ça, n'allez pas penser que vous n'êtes pas important parce que la vie humaine, vous êtes important quelle que soit votre maladie et vos faiblesses. Oui. Et demandez qu'on vous explique clairement quel est votre problème, c'est quoi la différence entre l'acharnement thérapeutique et c'est quoi la différence avec l'euthanasie, tout ce que ça implique pour que vous puissiez vous-même prendre la décision librement et non pas être influencé par votre entourage.
Monsieur Jean Stoll.
Mais, monsieur Zitouni, c'est à vous de faire des recherches aussi, faire des efforts et dépasser cette position qui est vraiment...
Mais simplement, les arguments ne convainquent pas, c'est tout, non?
Oh oui, mais l'humanité a toujours le choix de prendre le chemin, soit vers l'humanisation ou déshumanisation.
Cher Autriche, cher auditeur, mais quand même, ça m'a donné un point de recul. Hein, je dis sincèrement un point de recul. Je prends plus de temps maintenant à réfléchir à ce problème-là parce que ce n'est pas aussi facile que vous le croyez. Alors voilà, c'est tout le temps qui nous reste de cette émission. Permettez-moi de remercier de mes deux invités, M. Jean Stoll et Mme Kouzam Monique Gendron, d'avoir accepté... Pardon ?
Non, je dis, je vous en prie.
Merci, et d'avoir accepté justement de nous faire réfléchir sur ce débat qui nous divise. Mais alors, merci également à Guillaume, notre technicien de son. Merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À moi, je vous dis merci, chers auditrices, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute et à notre prochaine émission.
Merci à vous, monsieur Zitoni.
Tout le plaisir est pour moi.
Au plaisir.